Bonjour à tous. Donc, j'ai le privilège de participer à ce voyage parmi les psaumes, comme ça semble être la tradition dans cette église tous les étés. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous le psaume 139. Alors, on a déjà beaucoup lu du psaume 139. Et avant de lire le texte, j'aimerais simplement vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé en faisant le ménage, je ne m'adresse pas aux dames, d'avoir essayé de nettoyer une vitre ou un carreau? Alors vous vous appliquez avec du produit, votre chiffon, vous faites ça, il fait très bien. Et puis à un moment donné, un autre éclairage vient éclairer ce carreau. Et là, vous découvrez qu'il y a des choses qui n'ont pas été préparées. Mais je pense que ce psaume 139, quelque part, nous parle de ça. Ce psaume 139 va nous parler de la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu a une vertu particulière, c'est qu'elle va nous donner le bon regard sur les choses. C'est pour ça que j'ai appelé ce psaume « Demeurer dans sa lumière ». On va voir pourquoi. Mais je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, nous te remercions parce que tu t'intéresses à nous, nous te remercions parce que tu t'intéresses à nos vies dans leurs détails, tu t'intéresses à nos âmes. On te remercie d'avoir ce privilège de te connaître. Veuille bénir ta parole, nous parler, Seigneur, toi-même, et nous encourager pour avancer avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai remarqué que dans les psaumes, on a souvent le même schéma. Le psalmiste commence par présenter une situation. Alors, ça peut être sa situation. C'est souvent une situation assez dramatique, assez problématique, et en particulier chez David, c'est assez récurrent. Les psaumes sont souvent relatent des expériences difficiles, douloureuses, inquiétantes. Donc c'est la première partie. Mais ça peut être aussi le rappel de vérité fondamentale. Et ce qui est intéressant dans les psaumes, c'est que souvent le psalmiste, après avoir réfléchi à ces choses, change de regard. Et ce changement de regard, qu'on va assimiler ici à la lumière divine, va lui donner une autre perception des choses et va lui donner de se positionner par rapport aux événements ou aux vérités. Et le psaume 139 est écrit sur ce modèle. Le psaume 139, c'est deux grandes parties, les versets 1 à 18, où David médite sur la grandeur de Dieu, son omniprésence, son omniscience, et aussi son dessein. On va voir ça en détail. Et puis la deuxième partie du psaume, les versets 19 à 24, c'est, je dirais, la réaction de David par rapport à cette vérité. Comment David se positionne? Comment il réagit? Et on va voir que c'est assez intéressant, parce qu'il y a deux parties dans cette réaction. Alors, je vous propose un parcours en trois étapes, et en fait, à suivre un peu le texte. La première partie, j'ai intitulé « Dieu est lumière, rien n'échappe à son regard ». Et peut-être avant d'entrer dans... Et donc, c'est en gros la première section, la grande section du psaume, les versets 1 à 18, nous voyons cela. Ça a été déjà illustré ce matin par les textes qu'on a lus, mais aussi par l'exemple de Jonas, mais aussi par les chants qu'on a pu partager ensemble. Je voulais juste faire remarquer une chose, vous savez, nous sommes dans une période où c'est intéressant de contempler le ciel la nuit. On va avoir la fête des étoiles bientôt, je crois que c'est même ce week-end, me semble-t-il. Et en pensant aux étoiles, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à cette réalité qu'elles expriment. Vous savez qu'on dit les étoiles, on les positionne dans le ciel en parlant de la distance qui les sépare de la Terre. Et l'unité de mesure de la distance, c'est ce qu'on appelle les années-lumière, c'est-à-dire le temps que met la lumière, la distance que va parcourir la lumière en une année. Et ça veut dire qu'une étoile qui est à 20 années-lumière de la Terre, si je suis un observateur sur cette étoile, je vois ce qui s'est passé exactement 20 ans avant. Et donc, cette image est intéressante parce que ça veut dire que Dieu étant hors du temps, hors de l'espace, Dieu observe tout ce qui se passe au moment où ça se passe et ça reste quelque part écrit dans l'univers. Alors, je vous laisse à méditer cette pensée qui peut-être va nous donner d'apprécier un peu plus ce que signifie le pardon de Dieu. Quand Dieu dit efface nos péchés, c'est quelque chose de grandiose quand on pense à ça. Alors, revenons à notre texte. Dieu est lumière, rien n'échappe à son regard. La première partie du psaume, David dit « Tu tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, le verset suivant, il dit, tu sais, quand je marche et quand je me couche, Dieu donc voit nos mouvements, voit nos actions de manière continue. Donc c'est une première chose. Dieu voit tout ce que nous faisons. Et le psaume commence par une autre dimension. Les deux versets sont, il y a un deuxième morceau, dans le verset 2, il dit, tu sais, quand je me couche et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. C'est-à-dire que Dieu, non seulement voit objectivement ce que les hommes peuvent voir s'ils sont avec nous, mais Dieu voit aussi ce que les hommes ne peuvent pas voir. Nos pensées, le verset suivant, il dit, tu pénètres toutes mes voies. Et le mot voie dans l'Ancien Testament parle plus de tout ce qui... C'est plus que la pensée, c'est aussi ce que nos intentions, nos désirs, nos projets, qui est profondément caché en nous, et Dieu le voit. Ça, c'est ce que dit David. Et puis après, il va dire, Dieu donc voit tout ce que l'homme peut voir, mais il voit aussi tout ce que l'homme ne peut pas voir. Et j'irai même plus loin, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. On verra ça un peu plus tard, mais notre intérieur, notre cœur, nos émotions, nos mobiles, nos ambitions, nos aspirations, nos projets, nous n'en sommes pas toujours conscients. Et on parle de l'inconscient beaucoup. Mais Dieu, lui, connaît. Et je pense que c'est extrêmement précieux de penser qu'on a un Dieu qui nous connaît bien plus profondément que nous-mêmes. Et on y reviendra tout à l'heure parce que ça a une contrepartie puissante. Donc Dieu est observateur de nos actes, mais il n'est pas seulement observateur de nos actes, il est observateur, donc il pénètre nos pensées et nos voix, notre intérieur, si vous voulez. Et donc il est aussi observateur de nos émotions, toute cette dimension complexe de notre être, qu'on a du mal nous-mêmes à cerner, qu'on a du mal nous-mêmes à anticiper souvent. Dieu connaît tout ça. Le deuxième volet, quand on parle d'un Dieu qui connaît nos pensées, qui connaît nos cœurs, amène une deuxième réalité, c'est que Dieu nous connaît et donc il est sans illusion sur nous-mêmes. Dieu nous connaît, il sait ce qui est au profond de notre cœur. Et je crois que plus on avance avec le Seigneur, plus on avance dans la marche avec lui, plus on devient conscient de qui on est. Je disais souvent à un frère avec qui je fais un petit parcours biblique, que se connaître ne peut pas se faire sans connaître Dieu. Et plus on connaît Dieu, plus on apprend à se connaître. Pourquoi ? Parce qu'on découvre que Dieu nous aime, on l'a chanté ce matin. Il ne nous aime pas parce que nous sommes des gens bien, parce que nous sommes des gens mieux que les autres. Il nous aime malgré la connaissance qu'il a de nous. Je vais vous lire juste un verset dans le prophète Jérémie qui va toujours beaucoup parler. C'est Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour prendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. J'ai toujours été fasciné par cette idée que Dieu nous dit ici que la nature humaine est tortueuse et elle est méchante. C'est un message qu'on a du mal à recevoir, parce que surtout en tant que chrétien, on se pense peut-être des gens mieux parce que, effectivement, on a une relation avec Dieu. Et ici, le message est passé sans appel. Hein. Méchant et tortueux. Et puis le prophète ajoute, qui peut le connaître ? Donc, en résumé, c'est nous ne nous connaissons pas. Mais le paradoxe, c'est que Dieu, lui, nous connaît. Et malgré cette connaissance qu'il a de nous, il nous aime. Et il nous aime au point qu'il a payé le prix infini pour nous réconcilier avec lui. Alors, je crois que nous sommes tous convaincus que nous avons un Dieu qui est relationnel. Dieu cherche une relation avec chacun de nous. Et s'il y a ici quelqu'un qui n'a pas encore cette relation avec Dieu, alors saisissez l'occasion. C'est vraiment entrer dans la vraie dimension de la vie. Donc ce Dieu relationnel, il nous connaît. Et il cherche une relation avec des gens qui, si nous étions à sa place, nous ne fréquenterions pas. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est ça la grandeur, finalement, du plan de Dieu. Il aime des êtres non aimables. Il veut sauver des gens qu'il ne mérite pas. Il cherche une relation, il cherche une intimité avec des gens qui n'ont rien compris de lui. Donc voilà cette première partie. On a aussi vu qu'on ne peut pas échapper à son regard. Alors je vous ai renvoyé à cette image des étoiles et de la lumière qui se propage et donc qui mémorise quelque part ce qui s'est passé dans lui. On ne peut pas échapper au regard. On ne peut pas échapper à la vérité. C'est pourquoi j'ai parlé de la lumière, de demeurer dans la lumière, parce que c'est tellement important de se laisser éclairer avec la vraie lumière, pas celle que nous pensons avoir. Vous savez que souvent, on se fait des illusions sur soi-même. On pense qu'on est quelqu'un de bien, on a appris des choses. Mais le Seigneur veut nous montrer qu'en fait, on a encore à apprendre de lui, on a encore besoin de sa lumière. Le texte dit « Où irai-je ? » C'était le verset d'introduction au culte de ce matin. « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume 139, vous savez, a inspiré Victor Hugo, si vous connaissez le poème de Victor Hugo, qui s'appelle « La conscience ». Il parle de l'histoire de Caïn, il parle plus de la culpabilité, je dirais. Et malheureusement, Victor Hugo n'a saisi qu'une chose, c'est qu'on n'échappe pas au regard de Dieu, mais il a oublié le reste. Et c'est dramatique, parce que c'est un message pessimiste absolu. Mais néanmoins, Victor Hugo a compris une chose, c'est qu'on ne peut pas échapper au regard de Dieu, même dans la tombe. Et le poème se termine. Caïn était dans la tombe et l'œil contemplait Caïn. Je ne me rappelle plus la formulation, mais c'est des choses comme ça. Donc en fait, Dieu voit tout, Dieu sonde tout. Mais il y a une autre vérité importante, et c'est mon deuxième point, c'est que la lumière de Dieu n'est pas une lumière de jugement. Tu vois, quand on lit ce psaume, on a un peu cette impression que c'est terrible. Dieu voit tout, Dieu surveille tout. C'est un petit peu comme les caméras de vidéosurveillance, hein, avec l'idée de fliquer les gens, etc. Mais quand on lit le psaume attentivement, on s'aperçoit qu'en fait, ce psaume, son centre, c'est que la lumière qui nous est présentée, c'est plus une bénédiction qu'un jugement. Dieu n'est pas... La lumière de Dieu n'est pas là pour nous contrôler, elle est là pour nous bénir. Et c'est là le paradoxe. Alors il y a plein de petits... dans ces versets qui parlent de la présence permanente de Dieu, de son regard qui sonde tout, y compris l'intérieur de nos êtres. C'est d'abord un regard de bienveillance et d'amour. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous connaît et malgré cela, il nous aime. Donc toute l'action de Dieu dans nos vies, dans nos histoires, et nous avons tous des histoires différentes, Zoé a raconté un peu son parcours, mais chacun a son histoire, chacun a une vie à raconter. Dieu interfère avec chacun de nous d'une manière particulière. Parce qu'il nous connaît, parce qu'il sait ce qui va toucher nos cœurs, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Donc c'est d'abord une lumière bienveillante que Dieu veut nous faire voir. Versets 5 et 6, David dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Alors, il a dit « Dieu sent tout, Dieu voit tout. » Pourquoi est-ce que Dieu nous regarde? Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Passe du temps à nous observer. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un projet aussi. Et on va le voir dans les versets suivants. Il a un projet pour nous. Nous ne sommes pas des êtres apparus par hasard sur cette terre. Et c'est intéressant de se rappeler cette idée que Dieu nous a créés chacun pour nous-mêmes. Nous sommes tous différents, il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre sur cette terre. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, comment peut-on être athée? C'est une preuve d'un Dieu créateur, de voir cette diversité absolue. Et parce que Dieu nous a fait tous différents, c'est le fait que Dieu s'intéresse particulièrement à chacun de nous. Nous ne sommes pas des clones de quelqu'un. Et Dieu ne cherche pas à faire de nous des clones, il cherche à faire de nous des gens qui portent son image. L'image de Dieu, elle est multiface, si vous voulez. Dieu nous protège par devant et par derrière. Ça veut dire que dans cette lumière de Dieu, dans ce regard de Dieu, il y a aussi une intention de nous garder. Je pense que, d'ailleurs c'est une des questions pour les cellules cette semaine, nous avons tous dans notre histoire des expériences où Dieu nous garde par le vent, mais aussi par derrière. Et vous vous rappelez le passage à la naissance du Seigneur Jésus, quand les rois mages viennent adorer le Seigneur, ils partent par un chemin, et ils voulaient revenir par le même chemin. Et le Seigneur leur dit non, on passera par un autre chemin. Pourquoi ? Parce que l'intention de Dieu, c'était autre chose. Dans le livre des Actes, c'est pareil, on voit l'apôtre Paul qui a une intention, et puis le Saint-Esprit ferme la porte, et la mène ailleurs. Donc cette idée que Dieu veille sur nous, que Dieu nous entoure par devant et par derrière, c'est pas seulement pour nous protéger, mais c'est aussi pour nous conduire. D'ailleurs, un peu plus loin, verset 10, il dit « Là aussi, ta main nous conduira et ta droite nous saisira. » Donc l'intention de Dieu, quand il nous observe, encore une fois, c'est pas de nous juger, c'est pas de démontrer notre culpabilité, elle est démontrée de toute façon. C'est le fait que Dieu s'intéresse à nous, et que Dieu veut, il a un projet pour nous. Et ça, on le trouve de manière exprimée de la manière la plus forte par les versets où David va s'intéresser au fait à son origine. Comment est-il venu sur cette terre? Et c'est les versets 13 à 18 que je vous lis. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est un passage extraordinaire qui nous dit en filigrane que quand Dieu nous a créés, il sait pourquoi il nous a fait. Quand il nous a fait comme nous sommes, Dieu sait pourquoi. Il y a une intention de Dieu dans notre apparition sur cette terre, pour chacun de nous. Et parce que Dieu a un projet pour chacun de nous, on comprend maintenant pourquoi Dieu s'intéresse à nous. Parce que l'intention de Dieu, c'est que ce projet se réalise. Et donc il va tout faire pour qu'il se réalise. Et c'est pour ça que dans nos histoires, dans sa grâce, Dieu nous a un jour permis de rencontrer quelqu'un, d'entendre quelqu'un nous parler du Seigneur Jésus, de son œuvre, de son pardon, de sa grâce. Et nous n'avons eu qu'à saisir cette bonne nouvelle. Mais l'intention de Dieu, c'est que pour chacun de nous, il y a une histoire. Pas seulement pour nous sauver, pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, que nous ayons une relation avec lui, et que cette relation se développe, qu'elle s'amplifie, et que nous puissions arriver au bout de l'intention de Dieu. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu nous a confié comme responsabilité, comme mission? Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'œuvre de Dieu, personne n'est exclu. Nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous une mission de la part de Dieu. Et il nous a choisis pour ça. Donc, deuxième partie, Dieu est un Dieu bienveillant, est un Dieu, quand il nous regarde, quand il nous observe, quand il fait lumière, sa lumière, sur notre chemin, c'est pas pour nous décourager, c'est pas pour nous faire tomber, ou nous accabler, c'est pour nous montrer qu'il s'intéresse à nous. Nous avons une part dans son œuvre, une part dans son projet. Et j'aime bien parler du grand projet de Dieu parce qu'il est tellement plus grand que nous, tellement plus grand que nous. Mais nous avons une part. Et ça, c'est magnifique. Et le paradoxe de tout ça, c'est que Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Rien ne peut s'empêcher, rien ne peut l'empêcher de faire sa volonté. Et donc, il a un projet, il le mènera à son terme. Ça, c'est une assurance que nous avons. Et nous sommes dans ce projet, et on a l'impression que Dieu nous fait confiance, quelque part, dans ce projet. Il attend notre participation. C'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, comment dire, de consommateur de la grâce de Dieu, c'est une vie aussi d'acteur. C'est Dieu, nous soyons des acteurs dans son projet. Et il nous fait confiance. Et de plus en plus, avec l'âge qui avance, je me rends compte qu'on a un Dieu extraordinaire, bien entendu. Dont la sagesse nous dépasse, parce que laisser une responsabilité à un homme
avec un cœur mauvais et tortueux, fondamentalement, c'est prendre beaucoup de risques. Et donc, en fait, on a un Dieu qui prend énormément de risques en nous associant à son œuvre. Et là où nous sommes encouragés, c'est que Dieu contrôle tout. Dieu est souverain et son œuvre ira à son terme. Alors, réjouissons-nous d'être impliqués dans cette œuvre-là, même si nous avons aussi à mesurer notre petitesse par rapport à celui qui dirige l'œuvre. Et j'en arrive à mon troisième point, qui est peut-être le plus important. Parce que, encore une fois, ces vérités-là, nous les partageons, nous les connaissons. Et comme disait le Seigneur Jésus à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, il leur dit « Vous êtes heureux si vous savez ces choses. » Et il ajoute « Pourvu que vous les pratiquiez. » Donc ce qui est important, ce n'est pas seulement de connaître ces vérités. C'est important parce qu'elles nous, quelque part, elles nous encouragent, elles donnent du sens à notre vie. Elles donnent du sens à notre relation avec Dieu. Mais le plus important, c'est ce qui se passe chez David. Alors, encore une fois, David, quand il écrit ce psaume, en tout cas, c'est mon sentiment, il n'est pas au début de son parcours. Il a déjà une expérience d'un Dieu qui l'a mené par des chemins qui n'ont pas toujours été tracés d'avance par lui. Il y a beaucoup de, je dirais, d'imprévus dans la vie de David. Et rappelez-vous aussi que David nous le présente comme un type d'homme que Dieu aime particulièrement, puisque Dieu va l'appeler un homme selon mon cœur. Et je lui ai toujours posé la question, mais pourquoi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu, alors que David ne nous cache pas du tout la vie de David et, je dirais, les grosses gaffes, les gros péchés qu'il a pu faire. Il est allé quand même jusqu'à tuer un homme pour prendre sa femme. Bon, c'est pas un tendre non plus, David. Mais pourtant, Dieu le présente comme un homme selon son cœur. Et je pense que ce psaume 139, peut-être la dernière partie, nous donne une idée de ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu. Alors après avoir présenté ses vérités, finalement, David est confronté à qu'est-ce qu'il doit faire face à ces choses-là. C'est pour ça qu'il a appelé cette dernière partie, choisir résolument de demeurer dans sa lumière. Parce que ce n'est pas évident. La première réaction de David, et c'est le paradoxe, il dit au verset 19, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir à tes ennemis, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une haine parfaite, ils sont pour moi des ennemis. » Voilà. Et ce passage m'a toujours intrigué. J'ai l'impression que ça a été dit par erreur. Parce que c'est tellement surprenant. Mais en fait, ce n'est pas tellement surprenant quand on réfléchit. Quelle est la première réaction de David? C'est face à cette vision d'un Dieu si extraordinaire, si attentionné pour lui et pour nous. Eh bien, il s'insurge que des gens rejettent ce Dieu. Et donc, la première réaction, c'est de dire, mais comment ces gens peuvent-ils rejeter un tel Dieu? Et si David s'était arrêté là, je pense qu'il serait passé à côté complètement de la portée de sa réflexion. Certes, ce qu'il dit n'est pas faux. Comment peut-on s'opposer à un Dieu pareil, avec qui a de telles intentions de bienveillance, de bonté, d'amour? Et malheureusement, c'est ce qu'on constate tous les jours. Et puis, David s'arrête et on a l'impression que c'est comme si le Saint-Esprit lui disait « Mais David, souviens-toi ». Moi aussi, hein. Vous savez, c'est ce que disait le prophète Nathan après son péché avec Bathsheba. Il a raconté une petite parabole à David, et David dit, mais il faut punir cet homme. Et le prophète dit, mais cet homme, c'est toi. Et donc, c'est ça, je crois, le mouvement intéressant de ce psaume, c'est qu'il y a une façon de réagir face aux vérités qui, finalement, nous exclut des conséquences de ces vérités. Donc, maintenant, c'est pour les autres. Et il y a une façon de dire la parole de Dieu, d'ailleurs, où on peut penser que ce texte-là ne me concerne pas, concerne ces gens-là, ou un tel. Je pense que c'est une mauvaise lecture, parce que la parole de Dieu s'adresse à nous. Et David se ressaisit, on a l'impression qu'il y a comme un changement complet de perspective, et finalement, il revient au premier verset de ce psaume, et là, c'est pas « Seigneur, tu me sondes et tu me connais, je le sais ». C'est de dire « Bien que tu me connaisses et que tu me sondes, moi je veux être sondé et connu par toi ». Et là, c'est tout autre chose. Et c'est ça que Dieu aime. Vous voyez, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu cherche une relation, une collaboration avec nous. Et la collaboration qu'il recherche, c'est exactement celle que David présente à la fin de ce psaume. Face à cette réalité extraordinaire d'un Dieu qui voit tout, auquel on n'échappe pas, David choisit résolument de se placer sous la bonne lumière. Rappelez l'image au départ de la vitre ou de la glace qu'on a plastiquée sous toutes ses formes, et puis d'un seul coup, on a un éclairage qui vient révéler les failles. Bien, c'est un peu ça que David veut. Il veut que Dieu l'éclaire. Et quoi de plus important pour nous que d'être éclairé avec la lumière de Dieu? Pas avec notre lumière, pas avec notre regard, mais celui de Dieu. Alors évidemment, c'est un risque. Parce que quand on accepte de braquer un projecteur, ça va éclairer, ça va mettre en lumière tout un tas de choses qui ne le sont pas. Et donc, c'est le risque. Et c'est parce que David prend le risque d'être sous le projecteur de Dieu que Dieu va pouvoir le guider, Dieu va pouvoir l'entourer, Dieu va pouvoir le faire avancer dans son chemin. Je pense que c'est important pour un chrétien de demander à Dieu d'être lucide sur soi-même. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Plus les ans avancent, plus je suis conscient que j'ai besoin d'être réaliste sur moi-même. Que j'ai besoin d'être lucide sur moi-même. Alors, ce n'est pas de l'humilité, c'est du réalisme, hein, c'est de la lucidité. Et je pense que cette lucidité-là, elle est bénéfique parce qu'elle nous amène à plus de dépendance de Dieu. Elle nous amène à aussi plus apprécier la grâce de Dieu. Et encore une fois, c'est une grâce, donc quelque chose d'immérité. Et c'est très facile, et ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, de tomber dans cette idée que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien simplement parce que je connais Dieu, parce que j'aime le Seigneur de Dieu. Mais n'oublions pas que c'est lui qui nous a mis. C'est nous qui bénéficions de sa grâce quotidienne, de son projet. Alors, c'est ce que la Bible appelle l'humilité. L'humilité, c'est rien d'autre que la lucidité. Hein, c'est pas se décrier, c'est pas se rabaisser. D'ailleurs, la Bible est très équilibrée là-dessus. Hein. L'apôtre Paul dit, je demande, ne n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ça veut dire, ayez une basse opinion de vous-même. Soyez réaliste. Et Dieu aime la vérité. Dieu aime l'authenticité. Et c'est peut-être ça, être selon l'auteur de Dieu, c'est bien que nous savons que Dieu sait tout. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Donc prendre pardon, c'est prendre conscience que j'ai mal fait, bien que je sache que Dieu voit tout. Et puis il y a chez David aussi cette dernière phrase, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » L'objectif, ce n'est pas d'arrêter un chemin qui est mauvais, c'est d'être sur le bon chemin. David a compris que la pensée de Dieu, c'est l'épanouissement, c'est la relation avec son Dieu, c'est la connaissance de son Dieu. Et l'obstacle à ça, c'est prendre des chemins qui ne nous conduisent pas vers ça. Donc David est assez imbécile, encore une fois, il est sur le point du début de sa vie. Et il dit, regarde, que ta lumière m'éclaire pour voir si je suis sur une mauvaise route. Et si je suis sur une mauvaise route, eh bien, ramène-moi ou conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alors ce psaume, pour moi, il est important dans ma propre vie. Et je pense qu'il fait appel, d'une part, à une observation, à ouvrir nos yeux sur la grandeur de Dieu, sur l'intention de Dieu envers nous, intention d'amour, de bienveillance, mais aussi, Dieu a des projets de ne pas nous laisser là où nous en sommes, de nous faire grandir dans sa connaissance. Mais en même temps, ce psaume nous incite à nous positionner. Comme Zoé l'a fait ce matin, en témoignant, dans son désir de suivre le Seigneur, il nous faut nous positionner. Et se placer résolument sous le regard de Dieu, sous le projecteur de Dieu, c'est prendre un risque que Dieu mette en lumière des choses que nous n'avons pas forcément envie qu'il mette en lumière. Donc c'est une prise de risque, mais en même temps c'est la responsabilité que Dieu nous a donnée, le vouloir. Moi, j'ai appelé ce dernier cette dernière section, choisir résolument de demeurer dans sa lumière. Parce que ce n'est pas évident. Pour que nous en soyons dans notre vie chrétienne, ce n'est pas évident. Mais c'est vital si nous voulons avancer. Alors que le Seigneur nous encourage par ce psaume, non pas à être dans la culpabilité, ça c'était Victor Hugo, hein, culpabilité sans issue. Non, ce psaume, ce n'est pas un psaume qui souligne notre culpabilité, c'est un psaume qui souligne la grâce de Dieu. Dieu a un projet grand dans lequel nous sommes et il veut nous y impliquer pleinement. Et pour nous y impliquer pleinement, ben, il faut qu'on accepte qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine et qu'il nous conduise. Et pour ça, malgré nous, il le fait déjà. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant quand nous entrons dans cette intention de Dieu, dans ce projet de Dieu, et nous disons « Oui, je veux être conduit par toi. Je veux être éclairé par toi. » Même si ça coûte. Et ça coûtera, forcément. Mais l'intention de Dieu est si magnifique que ça vaut la peine. Alors que le Seigneur nous encourage chacun dans cette période d'été à méditer sur ces choses, méditer sur les étoiles. Il nous rappelle la grandeur de Dieu, mais aussi tout ce que nous avons vu sur sa lumière, et que nous soyons des hommes et des femmes de lumière qui vivent dans la vie.